sommes au bord de la Morge, nous sommes sur la commune de Saint-Myon et nous allons nous balader au rythme et surtout dans l'ambiance du printemps en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien si vous êtes des amateurs et surtout des fidèles des baladages de zoo. C'est un naturaliste qu'on aime beaucoup et avec qui on aime se balader parce qu'il nous permet une approche pluridisciplinaire de la nature. On va le retrouver dans un instant sous le chant des oiseaux et sous le chant également de la rivière la Morge. A tout de suite.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Le naturaliste en question qui est notre guide durant cette balade printanière, c'est, vous l'avez compris, j'en suis sûr, Gérard Guillot. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors on va s'intéresser au printemps, à l'ambiance du printemps et au réveil de la nature à cette saison. Le printemps d'ailleurs, ça évoque quoi pour vous ?
Ben, je dirais que maintenant, ça, à mon âge, ça évoque deux choses. Enfin, à mon âge et maintenant, ça évoque deux choses. Ça évoque, comme tout le monde, le renouveau. Puis en même temps, maintenant, moi, ça commence à me soulever des angoisses parce que de plus en plus, je me demande si c'est vraiment le printemps auquel on assiste. Et on va en parler longuement. Donc ça, c'est une inquiétude, une angoisse. Est-ce que dans 10 ans, on va toujours parler de printemps ? Donc voilà, c'est une question mêlée en même temps du plaisir de vivre ce printemps-là, un de plus.
Ouais.
Découvrir, observer,
s'évader, respirer,
contempler. H2O en balade.
Gérard, nous sommes donc au bord de la rivière La Morge, sur la commune de Saint-Myon, pour cette balade printanière. Ça m'ennuie que vous soyez angoissé quand même par rapport au printemps. Faut peut-être expliquer pour quelles raisons. Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'avec le temps, avec le recul, vous découvrez que les saisons sont peut-être un peu moins marquées qu'elles ne l'étaient encore il y a quelques décennies ?
Ça, c'est la grosse angoisse générale. Hein, c'est pour ça. Alors moi, je qualifie ça d'angoisse, c'est relatif, mais c'est quand même une tendance forte qui est en train de se dessiner.
Disons que ça vous interpelle.
Voilà, ça m'interpelle. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est les conséquences sur les êtres vivants, sur le cycle de la nature en général, tout ce dérèglement climatique, je crois que c'est le meilleur mot là, hein, et qui traduit bien ça, à savoir que le printemps maintenant c'est devenu moi ce que j'appelle la saison yo-yo, c'est-à-dire qu'on passe, il y a des épisodes très chauds, puis après il y a un épisode très froid, puis après il y a de nouveau un épisode doux, puis après il pleut énormément, puis après il pleut plus, enfin bon, depuis quelques années là, on assiste à un chamboulement total dans le schéma classique qu'on avait en tête. En fait, c'est ça, là, c'est qu'on est en train de changer de schéma, hein, de schéma de référence, et que bientôt, ce qu'on appellera le printemps, ça ne sera plus le printemps qu'on a connu. Alors, c'est pas du passéisme, hein, c'est que c'est une réalité. On est en train de glisser vers quelque chose de différent.
Vient après un hiver qui, souvent, n'en est plus.
Ah ben, c'est dans le prolongement, et qui annonce un été qui sera dans ce prolongement-là, qui sera encore différent, etc. Donc, c'est tout ce changement global. Et ça n'empêche pas qu'il y a un grand plaisir à le vivre, etc., et qu'il y a encore plein de plaisir à en tirer, hein. Mais effectivement, c'est cette différence, hein, qui pose question sur les conséquences que ça va avoir sur les milieux naturels, quoi.
Et le printemps, c'est une période qui est importante aussi pour nous humains. C'est un marquage, c'est la sortie de l'hiver. Ce sont les jours qui rallongent, c'est un peu plus de luminosité, un peu plus de soleil quand le printemps a décidé d'être agréable au niveau météorologique. Bref, on a besoin de cette recharge-là en sortie d'hiver.
Oui, parce qu'on est des êtres vivants qui sommes connectés à la nature, même si on n'en a pas conscience. On est né dans la nature en tant qu'espèce, hein, et on avait vécu dans pleine nature et tout. Bon, on s'en est largement détaché et même complètement coupé, mais il n'empêche que ça, c'est inscrit dans nos gènes.
Dans notre horloge biologique.
Hein. Voilà, notre horloge biologique, et même dans notre inconscient cérébral, on a des marqueurs, comme le marqueur sonore là, qu'on est en train d'écouter, ce
les
fond
oiseaux, ouais.
Sonore, même si on n'en a pas conscience, c'est quelque chose qui résonne dans notre cerveau et qui nous, ben, comme vous l'avez décrit, qui nous renvoie à, ben voilà, les jours vont rallonger, on va vers quelque chose d'autre, vers un renouveau, hein, c'est ça le symbole du printemps, et c'est bien ce renouveau, ce retour vers plus de lumière, et mine de rien, ben on le sait, hein, notre, y compris notre organisme, il a besoin de luminosité, de lumière, pour bien fonctionner, enfin pour mieux fonctionner, et donc ça s'inscrit aussi dans cette logique-là, quoi.
Ouais, ça crée des molécules bénéfiques pour l'organisme, hein. En particulier tout simplement l'exposition des premiers rayons de soleil du printemps nous permet de fixer la vitamine D, par exemple.
Ouais.
voilà. dont nous sommes carencés de plus en plus, hein, parce qu'il y a aussi cela qu'il faut avoir en tête. Vous l'avez dit, hein, le chant des oiseaux, c'est un repère, c'est une marque du printemps. C'est bon de temps en temps de se poser, tout simplement écouter, non ?
Ah oui, oui, parce que beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, ben j'écoute pas les oiseaux parce que j'arrive pas à les reconnaître. » Il faut pas être du tout... Alors là, c'est, à mon avis,
c'est
ça,
pas grave.
Ça, c'est une fausse angoisse, une fausse, oui, une fausse question. Parce que, alors, c'est bien, si on a envie de savoir qui chante, c'est toujours intéressant, ça, on peut toujours chercher, etc. Mais comme vous le dites, on peut très bien profiter du chant des oiseaux sans en connaître aucun. Et déjà, une première chose que vous pouvez faire, c'est effectivement écouter, par exemple, pendant se poser, et puis se dire combien d'oiseaux différents j'ai entendu. Ça, déjà, c'est intéressant.
H2O, partez en balade.
Nous sommes sur la commune de Saint-Myon, au bord de la Morge, en compagnie de Gérard Guillot, naturaliste pluridisciplinaire, qui nous permet de partager le plaisir de l'arrivée du printemps, après avoir évoqué son angoisse au tout début de balade. Vous êtes allongé un petit moment, ça va mieux, et maintenant on va parler des bienfaits du printemps. On l'a évoqué au tout début de cette balade, il y a les chants d'oiseaux qui, même si on n'est pas spécialiste de la nature, de par leur présence de plus en plus intense, nous incite à penser que là, ça y est, le printemps est bien enclenché. C'est le cas, là, on a un concert autour de nous. Alors, si on devait décrypter ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend en premier plan, là ?
Alors là, on entend bien le rouge-gorge. Alors, c'est cette espèce de cascade flûtée, là, qui est très calme. C'est un des chants les plus reposants qui existent. Très posé, très... Et puis, il répète toujours la même strophe, avec le ton qui descend. Donc, c'est vraiment un chant très, très apaisant, hein.
Il flûte. Hein.
Oui, oui, oui. Et puis c'est surtout ce côté calme, tranquille, sûr de lui.
La force tranquille, ça me rappelle
quelque
chose.
Parce que c'est
ça.
Un oiseau très agressif en fait. Hein, là, il est en train de marquer son territoire. Hein, parce qu'on rappelle, le champ, la plupart des espèces, c'est les mâles, et qui sont en train de délimiter les territoires. Et ça, sous ce côté tranquille, si jamais il y a un autre mâle de rouge-gorge qui s'approche et qui chante pareil, ça va vite virer à la chicousta violente. Hein.
À la chicousta,
oui.
D'accord.
Grosse bagarre, et des fois ils en arrivent même à se blesser, hein, tellement c'est... Donc derrière ce côté paisible, calme, il affirme son
rang de dominant.
Oui, il affirme son territoire et qu'il ne faut pas venir l'embêter. Quoi.
D'accord, donc ça n'est pas que bucolique.
Eh oui.
Alors ça peut être un chant territorial, mais ça peut être aussi un chant nuptial, ça existe chez les oiseaux, les chants nuptiaux.
Oui, bah c'est un peu la même chose, parce que ça a une double fonction, territorial, défend, donc ça s'adresse aux autres mâles, et puis en même temps ça s'adresse aux femelles, pour attirer des femelles, pour dire, bah, moi je suis le plus fort, je suis le plus beau, enfin caricature, hein. Donc c'est un moyen d'attirer une femelle, parce que les femelles là sont, elles de leur côté, en train de choisir quelque part les mâles, avec qui elles vont s'accoupler. Donc, elle le choisit sur le critère de si le mâle est capable d'émettre un chant assez soutenu, s'il est capable de chanter longtemps, etc., ben, ça veut dire que c'est un bon mâle, entre guillemets, qui a des bons gènes. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle pense ça dans sa tête. Hein.
Oui, oui.
Mais voilà, au niveau de la sélection naturelle, du choix d'évolution des espèces, elles ont petit à petit adopté ce critère qui leur permet de s'accoupler avec préférentiellement avec les mâles qui chante le mieux, entre guillemets. Quoi.
Alors là, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fin de compte, ce chant-là, on peut aussi l'entendre en hiver. Hein.
Oui, alors c'est un des rares exemples, le rouge-gorge, parce que normalement, la plupart des oiseaux, ils ne chantent pas en hiver. L'hiver, ils passent leur temps à chercher la nourriture. Bon, puis c'est pas la période de reproduction, mais le rouge-gorge est l'exception. Mmh. Et lui, alors, l'hiver, il chante de manière beaucoup plus discontinue, mais c'est aussi parce qu'en hiver, il conserve son territoire pour avoir s'assurer qu'il aura assez de nourriture pour passer l'hiver. Mais c'est l'exception, hein, parce que c'est un des rares oiseaux qui fait ça.
Alors ça, c'est pour le rouge-gorge. J'ai entendu, là on l'entend plus là tout de suite, mais j'ai entendu en arrivant le fameux tchic-tchac, tchic-tchac, tchic-tchac.
Hey, c'est le tchif-tchaf des Anglais, donc c'est le pouillot véloce. C'est un petit passereau qui se déplace en général dans les arbres, hein, et qui vient d'arriver. Enfin, la plupart viennent d'arriver. Il y a quelques hivernants, mais il est globalement migrateur. Hein. Et donc là, on le surnomme le compteur d'écus, parce qu'autrefois on comparait ça, là, le bruit que vous faites à tchif tchaf tchif tchaf, comme s'il laissait tomber des pièces. et donc qui tombent par terre et qui font ce bruit. Ça nous renvoie au fait qu'autrefois, on était très attentif au chant des oiseaux. Hein. Les gens, quand ils travaillaient dans les champs, etc., ils les entendaient à longueur de journée. Et mine de rien, de mettre des noms populaires comme ça, ça permettait aussi de les associer à un moment de l'année, à se repérer dans le calendrier. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, que c'est inscrit, qu'on le veuille ou non, dans nos gènes, même si on vit plus du tout en milieu rural. Je pense qu'on a au fond de nous, quelque part enfoui, ce lien avec des marqueurs sonores qui sont dans le paysage. Alors, il y a aussi les marqueurs avions, n'est-ce pas ?
Ça, on n'y coupe pas. Hein. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on aura un avion.
Voilà. Donc, on est survolé. Mais en même temps, on a ça qui nous ramène à... On est bien dans la nature, malgré tout. Hein, on l'occupe en tant qu'espèce à 120%, je vais dire, maintenant. Hein, mais il n'empêche que les animaux arrivent toujours à continuer leur vie de leur côté. Quoi.
Ouais. On occupe l'espace sonore aussi, l'environnement sonore.
On occupe tous les espaces.
À tel point d'ailleurs qu'en certains endroits, et en particulier en milieu urbain, les oiseaux chantent plus fort.
Ah oui, ils ont évolué, ils ont changé de... Enfin, génétiquement, ils sont différents. Il y a même des spécialistes qui arrivent à dire que, par exemple, les mésanges charbonnières, c'est très connu, elles chantent nettement plus fort et sur un ton différent d'il y a 30 ou 40 ans, et qu'on va arriver comme ça à une espèce à part. C'est-à-dire que si ces mésanges-là entrent en contact avec des mésanges des champs, la mésange des villes avec la mésange des champs, ben, se reconnaîtront plus, puisque le son est un moyen de communication, de s'accoupler, etc. Et ben, ça va faire deux espèces divergentes qui ne vont plus échanger de gènes entre elles. Quoi.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes le long de la Morge, une belle petite rivière qui longe la commune de Saint-Myon. On est en compagnie de Gérard Guillot, qui nous permet de vivre le printemps avec le regard du naturaliste qu'il est. Gérard, on a évoqué depuis le début de notre balade la présence sonore des oiseaux. Il y a des petits trucs mémotechniques qui permettent de les reconnaître. On a parlé du pouillot véloce, qui compte ses écus, ses sous. Et puis là, on a en fond sonore, là derrière nous tout de suite, le... pigeon ramier, qui parle d'un... Allez, verse-moi un coup, tonton, c'est ça?
Oui, je connaissais
paye
pas.
Ton coup, tonton, je connaissais pas. Paye ton coup, tonton, paye ton coup, tonton. Ah, vous connaissiez pas ça?
Ah oui, moi je disais coucou, 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 en cinq notes.
D'accord, oui.
Pour le distinguer, parce qu'il y a un autre oiseau de la même famille, qui est la tourterelle turque, qui est très commune en ville, qui elle fait coucou, coucou, trois notes. Et le pigeon ramier, c'est coucou, 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 cinq notes. Moi, je m'en rappelle comme ça, mais voilà, chacun, c'est... Et ça, c'est important, ce que vous dites, les moyens mnémotechniques pour mémoriser les chants. Et puis, quand vous le récitez, faites des gestes avec votre main, enfin, je parle notamment quand on veut l'apprendre aux enfants, de faire le geste avec la main pour montrer la hauteur du ton qui baisse ou qui monte, etc. Ça aide bien à mémoriser comme ça.
Ah oui, il y en a quelques...
Répétez-la, la phrase.
Paye ton coup, tonton, paye ton coup, tonton.
Bon, ben je la retiens.
Il y a un autre oiseau dont j'ai totalement oublié le nom, et là, c'est paye tes dettes.
C'est la caille.
Voilà.
Et
pour voir si vous suiviez.
Moi, j'en connais un aussi qui est le bruit en jaune. Alors, c'est la version anglaise. C'est « Just a little piece of bread and no cheese ».
C'est... Ah ouais, non, mais là, on est dans du très high level, là, quand même. Hein. Vous pouvez nous la refaire ?«
Just a little piece of bread and no cheese ».
Ah oui, quand même. Donc là, c'est le bruant
jaune, qui est un oiseau là, qui va commencer. Enfin, il n'a pas encore commencé à chanter, hein, mais pas en forêt. Hein. Lui, c'est dans les, on va dire, dans le bocage. Et mais c'est vraiment ça. Il monte et hop, il descend
d'un seul coup. D'accord. Voilà. Et puis on parle beaucoup des oiseaux, bien évidemment, parce que c'est une évidence. Hein, quand on est en balade là, comme c'est le cas là, au bord de la rivière La Morge, on suit d'ailleurs un petit chemin de randonnée, un balisé jaune, depuis le départ de Saint-Myon. Et puis on a juste à côté de nous, là, des monticules de terre. C'est, ça aussi, c'est un signe de réveil printanier.
Alors, pas complètement de réveil, hein, parce que là, donc, c'est des taupinières. Mais là, c'est spectaculaire. D'ailleurs, on les voit qui sont alignés à travers le chemin.
C'est du terrassement, là.
Hein. Et oui, c'est du gros terrassement. Hein. Donc, ça veut dire que sa galerie, elle est là, juste en dessous. Alors, autre signe que les printemps sont en train de changer, autrefois, en plein hiver, on ne voyait pas de taupinières. Et bien cette année, des taupinières, enfin cette année, puis depuis une dizaine d'années, des taupinières, on en voit même en plein hiver.
Elles n'arrêtent jamais.
Ouais. Elles n'arrêtent jamais. Alors, même quand, quand les hivers sont rudes et qu'il n'y a pas de taupinières, pour autant, elles n'hibernent pas, la taupe. Contrairement, elles s'enfoncent un peu plus profondément, et puis elles se mettent un peu en stand-by. Mais là, depuis plusieurs, une bonne décennie, c'est été comme hiver, elles terrassent. Et là, en ce moment, comme il a plu, que la terre est bien meuble, et donc là elle s'est mise à chasser les vers de terre. D'ailleurs il y en avait un qui était sorti, il est re-rentré là, qui était sorti en surface.
Il est fou parce qu'il est juste à côté du dôme.
Eh ben oui, mais
il s'est croqué pépère.
donc effectivement là il y a tout un tas de mammifères qui reprennent soit qui étaient hibernants, mais il n'y en a pas tant que ça chez nous, hein, enfin en plaine, soit qui reprennent beaucoup d'activités, et ça se manifeste par leurs traces indirectes, hein, les taupinières, les petites traînées des mulots, des campagnols qui tracent des petits chemins dans l'herbe, des prairies, etc. Donc il y a plein de signes comme ça que les animaux reprennent à fond leur activité, et que du coup leurs prédateurs, eh ben, comme les renards et tout, vont avoir du bon travail à faire, hein, parce que là, s'ils s'exposent plus à ce moment-là, et notamment ils s'exposent aussi parce qu'ils sont en période de recherche, eux aussi c'est la période de reproduction qui commence, donc ils sont en train de chercher des compagnes ou des compagnons, donc ils prennent plus de risques, donc plus de chances d'être, de risques d'être prédatés, d'être capturés à ce moment-là.
Ouais, d'autant qu'en plus, pour prendre le cas du renard, il prédatera d'autant plus qu'il aura une portée à nourrir aussi.
Et voilà, donc de son côté, lui, là, c'est la période du rut, elle est en train de commencer ou largement entamée chez les renards. Hein. Ça sera que la nuit, hein, qu'on les entend crier là, et se chercher.
Aboyer un peu.
Aboyer, oui, c'est un espèce de glapissement, on dit, ouais. Mais bon, très spécial. Et donc, effectivement, eux, du jour où ils vont avoir les petits, alors là, c'est nuit et jour qu'ils vont chasser. Et donc là, mais là, on est déjà presque, enfin, si, on va être au milieu du printemps, on va dire. On va être au mois de mai, donc là, ça va
battre son plein. Service rendu à la nature et qui devrait normalement nous inciter à retirer le renard des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, comme on dit. Hein.
Ah ouais, ça pas qu'un peu. Hein. C'est hallucinant, ce truc. Enfin,
incompréhensible.
Eh oui, ben oui, mais voilà. Plus c'est incompréhensible, plus ça dure. C'est
la société humaine, comme les avions, qu'on va laisser passer.
H2O vous emmène en balade.
Nous sommes au bord de la rivière La Morge en compagnie de Gérard Guillot, naturaliste, avec qui nous découvrons les ambiances du printemps et les richesses naturelles que nous offre cette saison, quand elle existe encore. Là, on vient d'entendre un bruit caractéristique de l'arrivée du printemps, parce qu'on commence à l'entendre à la fin de l'hiver, avant même que le printemps ne soit réellement inscrit sur le calendrier. C'est quoi ce qu'on vient d'entendre ?
Eh oui, donc c'est ce qu'on appelle le tambourinage des pics. Donc tout le monde connaît les pics. Hein, et donc alors, ça n'a rien à voir avec l'activité de recherche de nourriture. Quand un pic recherche la nourriture, il tape sur le tronc, mais c'est des coups de marteau. Quoi. On appelle ça du martelage quand il recherche sa nourriture. Là, vous avez vu, c'est un ronflement, enfin, c'est un bruit très bref.
Et on en voit un qui nous survole là, avec le vol caractéristique, un coup d'aile, un coup d'aile, je redescends.
Et donc, ils font ce bruit très court, là, un peu un ronflement qui monte. Donc, en fait, ils choisissent une branche, en général une branche morte qui sonne un peu creux, et ils tapent dessus, mais à très grande vitesse. Ça a été filmé, c'est de l'ordre de plusieurs coups par seconde, enfin, ça va très très vite. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes parce que ça a été très étudié du point de vue biomimétisme. Parce que quand il fait ça, il s'en prend plein la tête, quoi.
Ouais, mais il y a du liquide qui fait que le cerveau.
Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui protègent son cerveau parce que sinon, comme chez nous, le cerveau il bouge un petit peu dans la boîte crânienne. Donc le risque, c'est qu'il se, passez-moi l'expression, mais qu'il se pète le cerveau, quoi. Ouais. Enfin, que ça lui abîme le cerveau. Donc ça a été réutilisé. Enfin, on a réutilisé certains des dispositifs pour créer des casques de protection contre les vibrations très fortes comme ça.
On s'est inspiré de la nature.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs espèces de pics, et chaque espèce de pic a un tambourinage différent.
Et alors, que signifie ce tambourinage ?
Ah ben, c'est un marquage de territoire, et aussi, comme chez le chant, c'est l'équivalent du chant. Alors, il y a des pics qui ont à la fois un tambourinage et à la fois un chant. Alors, l'avantage du tambourinage, c'est qu'en forêt, notamment, ça porte très loin, beaucoup plus loin qu'un chant. parce que c'est un son, c'est presque une vibration, c'est dans des tonalités qui font que ça porte loin, et donc ça leur permet comme ça, comme les pics ont des grands territoires, relativement grands, donc ça permet comme ça de communiquer à distance, et comme le chant du rouge-gorge, de dire, bah là, c'est, je suis chez moi, etc. Quoi.
Et là, en l'occurrence, c'était le tambourinage de quel pic ?
Là, je pense que c'était un pic épêche, hein, très bref, un peu montant, parce qu'il y a par exemple le pic épêche...
Ah ben, il vient de nous survoler.
Ah oui.
On vient de le voir.
Non.
Et là, c'est un étourneau qui survole et qui se pose.
C'est une grive.
C'est une grive là.
Enfin, ah, oui, étourneau, je ne sais pas. Oui. Peut-être un étourneau.
Oui,
étourneau. Et oui, donc les pêchettes, par exemple, lui a un tambourinage beaucoup plus long et uniforme. Enfin bon, il y a le pic noir. Alors le pic noir, c'est, on a l'impression d'une mitraillette, parce que c'est le plus gros de nos pics, qui est de la taille d'une corneille. Alors quand vous avez un tambourinage de pic noir, je peux vous dire que ça déménage. D'abord, c'est très long, et puis c'est vraiment très très fort, quoi. C'est impressionnant, quoi.
Ouais, et puis il y a le cri, hein, du pic noir aussi.
Ah oui, bah, il y a les cris du pic noir, ouais. Et il a un chant. Bon, donc c'est des oiseaux qui sont en fait qui communiquent énormément. Mais je répète, c'est lié en partie au fait qu'ils ont des grands territoires et qui vivent en milieu boisé, et qu'en milieu boisé, ben, visuellement, on ne se voit pas de loin. Donc le son est encore plus important en milieu forestier.
D'où l'intérêt d'écouter, hein, quand même, la nature, de ne pas se contenter de regarder, et de se poser de temps en temps, de se faire un peu oublier, parce que plus on se fond dans l'environnement et dans la nature, plus on va entendre et voir des choses.
Ah oui, parce que pour l'ambiance sonore, c'est typique, hein. Si on marche et qu'on ne s'arrête pas, on va capter des bribes comme ça, mais là, par exemple, le tambourinage, dès que vous en entendez un, arrêtez-vous, parce que il y a de fortes chances qu'il le refasse. C'est espacé souvent de quelques dizaines de secondes ou parfois une minute, mais tôt ou tard, il va le refaire, quoi, ou peut-être pas, mais... S'arrêter régulièrement, faire des pauses, et puis vous pouvez aussi utiliser un truc tout bête. Vous mettez vos deux mains derrière vos pavillons d'oreilles comme ça, et vous tournez la tête. Ça fait un peu comme des paraboles, hein, et ça vous amplifie les sons. Donc ça permet comme ça éventuellement de capter des chants plus en arrière-plan ou plus ténus qu'on peut écouter.
Ouais. Et on entend à nouveau le pigeon ramier.
Ouais.
Avec cette fameuse phrase « paye ton coup, tonton, paye ton coup, tonton », j'insiste. Hein.
Alors lui, si ça se trouve, il a déjà pondu ses œufs. Hein. C'est un oiseau qui se reproduit très tôt. Et moi, devant chez moi, il y en a dans du lierre, j'ai vu un couple apporter des brindilles. Donc ils ont au minimum bâti le nid. Donc il n'est pas impossible que les femelles soient déjà en train de couver. Hein.
Découvrir l'Auvergne.
H2O, partez en balade.
Nous sommes sur la commune de Saint-Mion, en compagnie du naturaliste Gérard Guillot, pour parler, évoquer le printemps, cette saison qu'on apprécie particulièrement, qui est une saison du réveil de la nature, bien évidemment. On a parlé des oiseaux en début de balade, on a parlé un petit peu du réveil également de certains mammifères. Le portrait de famille ne serait pas complet si on ne parlait pas aussi de la végétation, forcément. Hein. Et on a à nos pieds d'ailleurs une petite fleur blanche. C'est quoi cette fleur-là ?
Donc celle-ci, c'est l'anémone des bois, ou on dit anémone sylvie. Alors sylvie, ça vient de sylvatique, hein, qui veut dire des bois. Donc ça, là, on est dans un milieu forestier, enfin un boisement au bord de la Morge. Hein. Donc ça fait partie des plantes qui fleurissent avant que les arbres aient produit leurs feuilles. On a évoqué que le printemps, c'était la lumière qui commençait à augmenter. Mais en parallèle, comme les arbres vont pas tarder à sortir leurs feuilles, on appelle ça le débourrement, hein, à sortir leurs feuilles et puis à déployer leur feuillage, et bien d'ici un mois et demi, deux mois, la lumière, il n'y en aura plus en sous-bois. Et donc, il y a plein de plantes qui se sont adaptées à cet environnement et qui, dans leur cycle de vie, se dépêchent de produire leurs feuilles, leurs fleurs, de produire des fruits et des graines avant que la lumière ne se referme. Parce que la lumière, c'est vital pour les plantes vertes, hein, c'est leur source de nourriture.
Donc avant qu'il y ait des feuilles. Hein.
Avant qu'il y ait des feuilles. Et donc les anémones sylvie, c'est des plantes vivaces. Sous terre, elles ont un petit rhizome, enfin une tige un peu chargée de réserves. Dès que les conditions de température commencent à s'améliorer, avec ces réserves, elles produisent une tige, deux feuilles, une fleur, et vas-y, c'est parti. Et donc là, elles vont boucler leur cycle pratiquement d'ici mi-mai, il y aura les fruits. Alors, les fruits, c'est des espèces de graines un peu dures. Hein. Et elles vont semer leurs fruits et leurs graines. Elles vont sécher, mais elles sont toujours dans la terre. Hein. parce que c'est des plantes vivaces et qu'elles conservent leurs racines, leurs tiges souterraines.
Alors c'est le cas de l'anémone Sylvie, ça n'est pas la seule, il y en a d'autres, des plantes.
Oh, il y en a plein d'autres. Là, par exemple, tout à l'heure j'ai vu, il y avait des corydales, hein, c'est des fleurs roses. Il y a les pulmonaires, alors ça vous avez dû, toutes les personnes qui se baladent là depuis cet hiver, elles ont commencé à fleurir cette année pratiquement dès la mi-janvier. C'est de plus en plus tôt.
En retard.
Ah oui, ben voilà, ça c'est un des effets du dérèglement climatique, c'est que justement les floraisons ont lieu de plus en plus tôt, sont décalées dans le temps, et parce qu'il y a eu un épisode au mois de janvier, il y a eu un épisode qu'on peut dire de historiquement chaud, d'accord ? Et donc ça réveille les plantes, elles ne regardent pas le calendrier, hein. Elles, leur point de repère, c'est, il y a deux critères, la lumière et la température, enfin entre autres. Et donc là, comme la température augmentait, pour elles, ça voulait dire, l'hiver est terminé, c'est le début du printemps, donc je sors mes tiges, je sors mes feuilles et c'est parti.
Donc la pulmonaire, fleur qui ressemble beaucoup au coucou.
Ouais, mais qui est bleue.
Et bleue.
Bleue, ouais. D'un bleu azur, bleu foncé.
Et avec un feuillage panaché. Hein.
Voilà, taché de blanc.
Hein. Ouais.
Et le problème que ça pose, c'est qu'elles commencent à fleurir, donc elles ont besoin de la visite des insectes pollinisateurs, sauf qu'à cette saison, alors il y en a quelques-uns, les reines bourdons qui commencent à sortir un peu tôt, mais si jamais il y a un épisode froid qui se ramène là-dessus, elles vont rester en fleurs, mais il n'y aura plus de visite. Donc la reproduction va être affectée. Et c'est en cela que j'évoquais au début le fait que ce dérèglement climatique a des impacts sur le succès reproductif des plantes, notamment, et des oiseaux, et de la faune et de la flore en général.
Et de certains insectes, comme les papillons, parce
voilà.
On sait par exemple que le citron ou le pan du jour sont des papillons qui peuvent se réveiller à la faveur d'un rayonnement solaire intense qui peut réchauffer un peu l'atmosphère, les inciter à partir, sauf que c'est trop tôt.
Et ils ne trouvent pas à manger, entre autres, à ce moment-là. Et puis, ils vont user une partie de leurs réserves qu'ils avaient accumulées pour passer l'hiver, puisque c'est des papillons hibernants. Et puis, ils vont se remettre à hiberner si jamais il y a une période froide qui se ramène. Mais ils auront moins de réserves. Si la période froide dure un peu plus longtemps, ils peuvent très bien ne pas arriver au bout. Et puis, quand ils vont ressortir de la deuxième hibernation, ils vont être moins vigoureux, moins aptes à se reproduire, etc. Donc, ouais. Tout ça, c'est très subtil, hein. Mais sur le moyen terme, ça peut affecter l'évolution des populations des espèces qui vont avoir moins de descendants, etc. Quoi.
Le concert continue. Hein,
ah oui, oui.
Le rouge-gorge en donne plein de billes. On a entendu la citelle également. Mm. Et il n'y a plus d'avion.
H2O en balade. Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes le long de la Morge, sur la plaine de Limagne, à côté de Saint-Mion, non loin d'Artonne également, en compagnie de Gérard Guillot, avec qui nous partageons la joie de découvrir finalement le réveil de la nature durant le printemps. On a parlé donc des oiseaux, beaucoup, un peu de mammifères, un peu d'insectes. Le portrait ne serait pas complet si on a parlé des fleurs aussi, le portrait ne serait pas complet si on ne parlait pas des arbres qui développent une énergie folle hein, au printemps parce que les choses sont en train de se mettre en place. Là, je vois un beau bourgeon qui est en train de pousser sur un noisetier. Les arbres, si on les observe d'un peu plus près, on se rend compte en fin de compte que le printemps, c'est le moment où ça va exploser, quoi.
Il y a un moyen de s'en rendre compte, mais avec un moyen un peu particulier, c'est le stéthoscope. Si on se met un stéthoscope et qu'on le met contre l'écorce, et ben là on peut, enfin sur certains arbres, hein, ça marche pas avec tous, mais on peut entendre le bruit qui correspond indirectement à la sève qui se remet en mouvement. Donc au printemps, ce qui se passe, c'est que donc pendant tout l'hiver, les arbres, ils étaient l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler l'hibernation des animaux, c'est-à-dire qu'ils sont en vie ralentie totale, la plupart sont débarrassés de leurs feuilles.
C'est un état de dormance.
C'est un état de dormance complète. Et là, ils vont reprendre leur activité avec leurs racines. Donc, ils vont aller repomper l'eau et les sels minéraux qu'il y a dans le sol et faire monter ce qu'on appelle la sève brute vers les branches, et vers les bourgeons, qui justement vont recevoir ainsi de la nourriture et vont commencer leur développement. Parce que dans les bourgeons, il y a tout, les futures feuilles, les futurs rameaux sont concentrés dans le bourgeon sous forme très condensée et vont là d'un seul coup se mettre à grandir, à se développer, à s'ouvrir, à s'allonger et à déployer les feuilles et ainsi de suite. Hein. C'est même pas un réveil, là, c'est une explosion de vie. Parce que là, maintenant, la course est lancée hein, et ça va aller très vite. Selon les espèces, il y en a qui ont déjà démarré. Là, celui que vous montrez, là, c'est un oisetier. Et dans quelques jours, si les températures continuent d'augmenter, comme c'est parti là un peu, hein, si les matins ne sont pas trop froids, donc ça va très vite s'accélérer. Et puis, plus tardivement, on va avoir les chênes qui vont démarrer à leur tour. Hein.
Et si on a la possibilité de voir des images accélérées, c'est là qu'on voit à quel point c'est une véritable explosion de vie.
Ah oui, parce qu'on voit les feuilles qui se déploient. Parce que je le répète, hein, la feuille, elle est toute petite dans le bourgeon. Donc, non seulement elle s'allonge, mais en plus, elle se déploie. Et donc là, c'est un spectacle féerique, effectivement. Mais bon, même sans voir l'accélérer, si on regarde les arbres jour après jour, on voit ce déploiement progressif. Et puis le jeune feuillage qui est tout frais, souvent il a des teintes un peu rosées. Enfin, il y a des nuances de couleurs qui sont merveilleuses. Quoi. Ouais,
50 nuances de vert, comme je dis souvent. Quand on a conscience de l'énergie développée par les arbres pour amener justement la sève, on s'imagine en fait que ça se fait tout seul, alors qu'en réalité c'est une aspiration quand même et une énergie folle, parce qu'il faut pouvoir amener la sève jusqu'à la cime des arbres.
Oui. Là il y a des mécanismes très 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 complexes qui entrent en jeu. Après, une fois que les feuilles sont sorties, ça se fait par le jeu de la transpiration des feuilles qui crée une espèce d'aspiration, enfin bon, je la fais courte, hein, et qui crée une aspiration qui fait monter la sève. Mais au départ, tant qu'il n'y a pas les feuilles, là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, et donc, il y a une reprise de l'activité des cellules à l'intérieur de l'arbre qui font que cette sève va se remettre à circuler.
Ouais. Et nous sommes également assez... bonjour, messieurs, bonjour. L'association de pêche de Combronde.
Ouais.
Je vois ça, c'est ce qu'on appelle les truites bassines. Il n'y a pas de doute. Quand on écoute aussi, vous l'avez dit, hein, avec un stéthoscope à l'écorce des arbres, on voit qu'effectivement la vie se lance. Mais une vie qui s'est préparée en amont. Parce qu'il a fallu quand même que cette énergie soit accumulée et que les bourgeons qu'on voit apparaître aient été préparés au moment de l'automne.
Effectivement, les arbres ont perdu leurs feuilles très tardivement, mais ça a une conséquence, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps justement de réinvestir dans la... Enfin, les bourgeons étaient fabriqués, mais ils n'ont pas eu le temps de les finaliser complètement. Et donc, là, ils se retrouvent au printemps avec, a priori, des bourgeons qui étaient moins achevés, moins complets. Ça va donner des feuilles plus petites, moins de fleurs, parce que dans les bourgeons, il y a aussi les futures fleurs, hein, qui sont là. Donc, moins de fleurs ou des fleurs plus petites, moins prolifiques, on va dire, qui produisent moins de graines. Et donc, là encore, comme pour les oiseaux qu'on avait évoqués, ça va impacter le succès reproductif des arbres. Et ça, c'est un gros souci à moyen terme, c'est que ce dérèglement climatique, avec ces espèces de yo-yo des températures, qui font que les arbres, ils sont complètement perdus, parce qu'eux, ils se calquent sur les températures. Quoi. Tant qu'il fait beau, ils se mettent pas en veilleuse, ils préparent pas leur hibernation. Et si ça vient d'un seul coup, ils n'ont plus le temps de se mettre en veilleuse et d'entrer en hibernation, puis après de se réveiller au printemps. Quoi.
Et la boucle est bouclée, puisqu'on a commencé cette balade avec cette angoisse qu'on met entre guillemets, du fait qu'il y ait moins de saisons marquées, et parce que les saisons sont importantes, ce sont des cycles qui permettent à la nature de pouvoir vivre correctement et de pouvoir s'épanouir correctement. En tout cas, on était ravis de découvrir ces premières notes du printemps grâce au chant des oiseaux à travers cette balade le long de la Morge, petite rivière assez bucolique là, avec en plus quelques fleurs qui poussent ici et là et qui montrent bien que ça y est, l'hiver on lui dit au revoir et le printemps on lui dit bonjour. Merci beaucoup Gérard.
Merci, au revoir.
Le printemps s'éveille, c'est une vie foisonnante qui expose en son, en couleur, en senteur, une saison qui ne laisse pas insensible et qui ravit tous les amoureux de la nature, les observateurs attentifs et les contemplatifs. Oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens, reptiles, arbres et fleurs, tous nous offrent des moments magiques, à condition de prendre le temps de regarder. Alors surtout, n'hésitez pas et devenez comme nous, curieux de nature. Merci à Gérard Guillot de nous avoir guidés lors de cette balade dans le décor bucolique de la Morge à Saint-Mion. Merci à Benoît Allard pour la prise de son et Céline Bonhomme-Monge pour le mixage. Je vous souhaite une belle fin de matinée à l'écoute des programmes de France Bleu Pays d'Auvergne et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures dans la belle Auvergne.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.